Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Lodève, voici l'émission Conseil de famille. Aujourd'hui dans ce conseil de famille, grandir dans la pauvreté. Pour lancer le sujet, une définition de la pauvreté. La pauvreté est souvent définie comme le manque de ressources pour mener une vie décente, mais la pauvreté ne se caractérise pas uniquement par une précarité financière. Être pauvre, c'est aussi avoir faim, ne pas avoir accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, mais pas que. Il n'y a pas qu'une seule définition de la pauvreté. La pauvreté impacte le bien-être de l'enfant, son développement et l'exercice de ses droits fondamentaux, mais elle a également une incidence sur son avenir. Pour discuter de ce thème, grandir dans la pauvreté, nous retrouvons comme tous les mois nos invités et nos spécialistes. Anne-Marie Stamps, coordonnatrice du PRE, le programme de réussite éducative au CCS de Lodève. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Anne.
Maud Frichoux, psychologue de l'EPE, l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault. Bonjour Maud.
Bonjour Anne.
Et Marion Verriès, accompagnante à la parentalité, formatrice de l'association Grandir Ensemble. Bonjour Marion.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les trois pour évoquer ce thème, grandir dans la pauvreté. Pour commencer cette émission, une chronique sur la pauvreté. Maud, on te laisse le micro.
Merci. Alors effectivement, la pauvreté, donc j'ai fait mes recherches de mon côté et effectivement, il faut quand même avoir en tête qu'en France, un enfant sur cinq, soit près de 3 millions d'enfants, vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Quelles conséquences très concrètes cela a-t-il sur leur vie quotidienne, leur bien-être et leur développement ? En tête de liste des difficultés touchant les enfants pauvres est le mal logement. En fait, le mal logement, ça ne définit pas au sens premier du terme un foyer qui se veut normalement contenant, accueillant et sécurisant pour les enfants. L'enfant est privé de son intimité, contraint de vivre en permanence sous le regard des autres. Il est par conséquent difficile pour un enfant de trouver la tranquillité nécessaire pour dormir, penser, rêver ou faire ses devoirs. Pour ces enfants, la vie est faite de contraintes matérielles qui restreignent l'espace des possibles. De plus, les enfants ne peuvent pas forcément expérimenter leur point de vue, leurs goûts, leurs émotions. Les parents les incitent plutôt à ne pas se faire remarquer. Et puis en classe, les petits élèves qui sont partis en week-end ou fait des activités ont forcément plus de choses à raconter que ceux qui ne sont pas sortis de chez eux. Autre conséquence de grandir dans la pauvreté est la stigmatisation, les problèmes de santé, particulièrement l'obésité, un logement trop petit dans lequel on ne peut pas inviter les copains. Plusieurs études ont mis en évidence la difficulté de ces enfants à s'intégrer parmi les pairs, avec une tendance à entretenir avec eux des relations conflictuelles. La pauvreté affecte également les relations parents-enfants, avec des familles qui subissent un stress permanent, avec une disponibilité psychique moindre. Les conflits familiaux sont plus nombreux, de par l'impossibilité d'avoir un espace à soi. Pour autant, ces familles ne sont pas démissionnaires, loin de là. Elles peuvent être autant attentives aux besoins de leurs enfants. Elles utilisent des ressources en s'appuyant notamment sur leur environnement. La parentalité apparaît davantage collective. Ces parents déploient des trésors d'inventivité et d'énergie pour protéger leurs enfants de conditions de vie difficiles. Donc c'est ce thème aujourd'hui que nous allons partager, en tout cas nos réflexions autour d'une des plus grandes injustices, en tout cas me semble-t-il, de notre société.
Elle est bien présente, la pauvreté, oui. Même de nos jours. Mmh.
Mmh. Tout à fait. Et je voulais juste revenir sur un élément qui me paraît fondamental, c'est quand on parle du seuil, de vivre en dessous du seuil de pauvreté, c'est 673 euros par mois, hors aide sociale, c'est quand même extrêmement peu. Mmh.
Effectivement, la pauvreté est toujours plus importante, on a l'impression qu'elle est grandissante, pour distinguer la pauvreté de la précarité. Mmh. Alors la notion de pauvreté est souvent basée quand même sur l'absence ou insuffisance de ressources monétaires. Là où on parle de précarité, c'est la notion de fragilité, des revenus, mais aussi d'autres positions sociales, ou donc précarité alimentaire, énergétique, numérique, aussi, qui deviennent de plus en plus importants. Et je pense que voilà, c'est aussi une notion de cumul et d'exposition à des risques qui vont affecter ces enfants-là et qui vont en faire des enfants qu'on va qualifier comme vulnérables. Ils vont cumuler un tas de facteurs de risque qui vont potentiellement entraver leur développement harmonieux.
Tout à fait. Et je rajouterais à ça que quand même 19% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est beaucoup. Et c'est notamment des mères. Alors effectivement, nous, sur le territoire de l'Odève, on peut en parler. Il y en a quand même beaucoup de ces mères, de ces mamans. Alors moi, je les appelle vraiment les mères courage parce que elles cumulent énormément de difficultés. Un des indicateurs clés, en tout cas une des conséquences clés de cela, c'est les séparations qu'elles vivent. Et elles se retrouvent ici assez seules, isolées de la famille, sans forcément un moyen de locomotion, donc une grande difficulté pour trouver un emploi. Mais c'est quand même des mères dont je parlais de ressources, de trésors d'inventivité. Ce sont quand même des mamans qui ont des stratégies d'aller vers aussi les voisins, les voisines, une sorte de solidarité collective. Quand je parlais de parentalité collective, une solidarité, de se faire garder les enfants, pour essayer d'avoir un peu de d'échange. Il y a vraiment ce phénomène, je trouve, très très fort. Mais c'est quand même des parents qui cumulent, en sachant que, encore une fois, ce sont des mamans. Moi, je parle de mamans parce que c'est quand même plus elles que je reçois, qui sont quand même très attentives à offrir à leurs enfants quand même du plaisir. Par exemple, elles vont ne pas manger peut-être trop bien, mais l'enfant, lui, aura le goûter sympathique pour faire comme les copains. Elles vont privilégier la chambre pour son enfant et elle dormir dans le salon. Enfin voilà, il y a quand même, et ça on le retrouve beaucoup, ces parents-là qui se sacrifient quand même
pour offrir
à leurs enfants quand même des choses de qualité.
Et ça devient plus difficile quand même quand les enfants grandissent.
Bien sûr.
Voilà. Parce qu'on a la notion de stigmatisation qui devient beaucoup plus importante. Quand ils sont petits, ils ne se rendent pas toujours forcément compte de la différence de vêtements, de repas,
besoins différents.
Enfin, ils ne repèrent pas forcément, même si beaucoup d'enfants le repèrent quand même. Enfin, il ne faut pas non plus minimiser les choses. Mais par exemple, pour le collégien, avoir une paire de chaussures de marque devient extrêmement important pour ne pas être en dehors du groupe, pour ne pas être stigmatisé. Et forcément, là, l'enfant le repère beaucoup plus facilement et verbalise les choses plus facilement. Et là, on voit aussi que les parents sont de plus en plus en souffrance avec ça, en disant « j'aimerais pouvoir, mais je ne peux pas. » Et je comprends ce qu'il me dit, et c'est effectivement extrêmement injuste, mais je ne peux pas, et on doit d'abord manger. Et ce qu'on repère aussi beaucoup chez ces personnes-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, pour nous, sont évidentes, simples. Pour eux, c'est le combat du matin, pour le soir. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Donc ça ne laisse pas beaucoup d'espace psychique par moment disponible pour autre chose. Donc si son enfant va pleurer, ses parents font de leur mieux, ils seront un peu moins disponibles quand même pour accueillir l'émotion de son enfant, parce que si je vais pas maintenant au Secours populaire par exemple, je n'aurai pas mon colis alimentaire, etc., etc. Donc c'est aussi, les journées sont rythmées par des choses que on a du mal, nous, parfois, tellement que c'est évident pour nous d'intégrer. Parfois, les exigences, du coup, aussi de la société envers ces parents-là, ils sont disproportionnées.
Ça peut entraîner aussi chez les enfants un problème d'estime de soi, parce qu'à la maison, on n'a pas forcément l'espace de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on vit, les émotions, ses envies. Et donc, ça peut se reporter sur ce genre de problème. Et dans l'accompagnement à la parentalité, on voit aussi que les parents aussi sont touchés par ce problème d'estime. Et ça peut être intéressant de valoriser les ressources culturelles et sociales de ces familles-là qui, comme tu disais, Anne, font preuve non seulement d'ingéniosité, mais aussi sont à même de fabriquer des choses, d'entretenir des relations sociales parfois beaucoup plus riches que dans certains milieux aisés. Pouvoir planter, jardiner, faire des choses avec son enfant. qui peuvent voilà créer du lien et qui sont à vraiment valoriser au niveau de la société.
Et je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que moi par exemple je développe, j'accompagne ces mamans dans le sens de prendre du temps pour elles. C'est-à-dire que souvent ces parents-là, comme ils sont beaucoup dans des contraintes et dans du stress de comment payer ma facture d'électricité, comment nourrir mes enfants, des choses de contraintes matérielles très très fortes, ils s'oublient beaucoup. Et du coup, moi je favorise et j'essaie vraiment de leur dire, mais c'est important aussi de prendre des tout petits temps, d'aller voir une copine, d'essayer quand même de leur offrir comme ça des espaces de repos. Parce qu'elles s'y autorisent pas, ces mamans. Souvent, c'est l'enfant qui passe avant. C'est l'enfant qui passe avant. Et quand je t'écoutais aussi, Anne-Marie, sur ces parents d'ados, hein, où l'ado, après, a des exigences, hein, d'être comme les autres, ce qui est normal, on a aussi cette injustice très forte, où il y a eu une petite régression, mais ça reste très présent. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de crédit à la consommation, ces parents-là, pour offrir à leurs enfants le portable, les super chaussures. Et du coup, ils s'enfoncent encore un peu plus dans la précarité, parce qu'on sait bien, hein, on a tous vu à la télé, pour ceux qui ont la télé, les pubs Cofidis ou autres, sans vouloir faire de publicité, où en 48 heures, tu as droit à un prêt où tu as 2000 euros. Hein,
voilà, c'est une facilité
avec des taux d'intérêt qui sont exorbitants. Hein, on dépasse les 18% quand même de taux d'intérêt. Il faut quand même réaliser ce que c'est que 18% de taux d'intérêt, ce que ça a comme conséquence. Et malheureusement, eux, ils sont les premières victimes de ce type de produits. Ouais.
Effectivement, après le surendettement qui en découle, qui est encore un stress supplémentaire, on va pas s'en sortir, donc on refait un crédit, etc. Mais voilà, ce qu'on retrouve souvent aussi, cette difficulté des parents, et que ce n'est pas agréable d'aller demander de l'aide, ce n'est pas agréable de chaque fois... demander de l'argent, une aide X, Y, de sonner à toutes les portes. Et puis, effectivement, l'estime de soi. Moi, je pense qu'il faut aussi revenir là-dessus pour les enfants, mais aussi pour les parents. Tout le monde arrive à travailler, tout le monde journée debout, pourquoi moi, j'y arrive pas. Une espèce de cercle infernal aussi, en disant, les enfants sont enfin à l'école tous, mais si je dois payer la cantine, je ne pourrai pas. Avec un SMIC, je n'y arriverai pas quand même. Si je dois mettre du gasoil dans la voiture, Donc en fait, aller travailler, ça va pas forcément m'aider plus parce que j'aurai des frais supplémentaires. Et si je fais le calcul, je gagnerai pas plus et ça serait encore pire. Du coup, de moins en moins de liens sociaux qui en découlent et on s'enferme un peu plus. Et il y a quand même quelque chose qui est très chouette ici sur l'ODEV, c'est qu'on a un tissu associatif qui est important.
Diversifié.
Et diversifié avec énormément de propositions gratuites, qui recréent des liens sociaux au centre social, à la compagnie des jeux, Terre Contact, avec le four à pizza. On a cette chance-là. Et qui permettent à ses parents aussi de ressortir de là et d'avoir quand même du lien social et que ça devient un peu moins difficile à vivre au quotidien.
Oui, c'est qu'il y a le poids de la honte, la honte sociale, qui est très très fort pour ces familles qui sont toujours à faire des demandes et ou alors le refus. Moi, j'ai des familles, ils ne veulent plus. Voilà, ils en ont marre de demander. En tout cas, ça les met au niveau de l'estime de soi, c'est très compliqué. Il existe des mesures. Alors, il y a eu quand même ce fameux plan de lutte contre la pauvreté qui date de 2018, qui nous a donné beaucoup d'espoir, avec deux axes clés qui étaient le retour à l'emploi et les 1000 premiers jours avec l'accueil des tout-petits. Bon, il y a eu des petites avancées, mais pas suffisantes pour ces familles.
Il faut dire aussi qu'on a une inflation...
Galopante.
On a l'impression que d'un côté, on essaye de faire des choses, de l'autre côté, le destin joue contre les choses qui sont mises en place.
Oui, parce que même pour une famille dite dans la norme, c'est
aujourd'hui, ça peut devenir compliqué. Oui, effectivement, on a de plus en plus de familles qui ne seront pas forcément dans la pauvreté, mais en tout cas dans la précarité. Précarité grandissante, notamment dans les classes moyennes.
Ah oui, c'est effectivement... Alors, c'est pas... Tu parlais, Anne, de la, enfin, tu évoquais la définition de la pauvreté. C'est pas encore des familles qui ont basculé complètement dans la pauvreté, mais qui déjà commencent à rogner effectivement sur le loisir, la santé, des choses de, les lunettes,
les dents
beaucoup, la voiture. Voilà, c'est des choses qu'on entend beaucoup, hein, effectivement. Et c'est vrai que et après il y a ces enfants qui sont là et qu'on essaye quand même de leur offrir des... Alors après il y a des dispositifs, il y a par exemple les VACAF, hein, pour les familles vraiment en grande difficulté, proposées par la CAF, hein,
la cantine à 1 euro,
voilà, qui est là et qui existe aussi. Après il y a des dispositifs de protection de l'enfance, hein, qui existent, bon, qui est assez particulier, qu'on appelle la GBF, qui est donc sur la gestion du budget familial pour des parents qui ont des enfants mineurs, avec une possibilité d'être accompagné et aidé par un travailleur social, avec vraiment une mise en place comme une sécurité autour de la famille, hein, où quand même le loyer est payé, enfin on met les prestations familiales de côté, enfin il y a des systèmes. Après il y a quand même ce phénomène de ces familles qui rentrent dans un dispositif de protection, ce qui n'est quand même pas anodin. Il faut quand même accepter ça, hein, parce que c'est vrai que dans le rapport à la pauvreté et par rapport aux besoins de l'enfant, on fait le lien entre, à partir du moment où les besoins primaires de l'enfant sont non pourvus, il y a du danger. Et ça, pour les familles, c'est difficilement acceptable, parce que elles sont pas actives dans le danger. La pauvreté,
c'est subi.
Donc, elles trouvent ça extrêmement injuste qu'on les stigmatise comme famille inscrite dans un mécanisme de protection, alors que pour elles sont pas maltraitantes, et elles le sont pas. Elles ont raison. Mais maintenant, est qualifiée de danger la notion de l'enfant. On ne pourvoit pas aux besoins de l'enfant. Donc, ça devient compliqué.
On va faire une petite pause musicale et puis peut-être on parlera du point de vue de l'enfant, comment et son ressenti dans sa vie, hein, par rapport à la pauvreté. Alors la musique, c'est Pauvre de nous, Massilia Sound System.
Faire bouler les fadas en parlant du vin et des filles.
Hélas, le monde est en tourbillon.
Qu'est-ce pas l'outil des pantaillas?
Quand on tourne en picharillo.
En un clin d'œil sur ta télé, tu pourras compter sans bordille.
Ouais. C'est Marilas qui est le mestier, c'est d'être là sous la porrillo.
À découvert ou déguisé.
Les dames sont toujours déguisées.
Pour te tromper, ils se maquillent.
Coulègue, tu folles incapaces, un coup mesquino d'une lettre.
Y'en a partout, je te mens pas, c'est pire que la taxifolie.
Des dînes l'église et dînes l'estat.
La presse et l'université.
Et des léos d'une ta famille.
Ces salons ne font que tricher pour mieux récupérer leur pille.
Et politique, les yédés, mais ils semblent une comédie.
Ils masquent la réalité,
imposent leur vérité.
Toujours fuyant comme l'anguille.
Et pour faire sauver les tugas, t'expliquer un tout per magie.
Mais leur savoir est plus étroit encore que le chat d'une aiguille.
Soumis ça d'une petite taisa.
J'ai pas l'arrière maille des trouvas.
C'est sans prévention ni courtésie.
Ils nous feraient bien rigoler s'ils ne faisaient que des broutilles.
Moi ici pareil sont pour l'idée dans des samplings à la caville.
Ils nous empêchent de penser.
Seraient prêts à jouer les bouchers.
De peur que la secte vacille.
Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passée la plèbe? N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient? Y'en a plein qui achètent un moulon de six caves, des obligations et des actions à Paris-Bas. Un lingot ou deux cachés tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi. On rêve tous de cabriolets et de Mercedes, et de posséder une belle et grande villa, pleine de champagne et de superbes gonzesses, habillées par Chanel, Dior et puis Chantal Thomas. Pleine de seins, pleine de fesses, et qui ressemble à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates et Bill Clinton,
et Monica. Quand vient le samedi, à tous les coups, c'est la grand-messe de la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement, on fait souvent des chèques en bois. Les riches sans vergogne augmentent leur richesse. Toi, pauvre couillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciennes sont à l'aise pour magouiller à tour de bras. Et c'est toujours le plus balèze qui du faible brise les doigts.
Massilia Sound System, nous sommes dans Conseil de famille pour parler de grandir dans la pauvreté, c'est le thème abordé. On a parlé surtout du point de vue des familles et des parents, peut-être maintenant le ressenti des enfants, les enfants que vous pouvez voir les unes et les autres dans vos organismes, dans vos structures, comment et ce ressenti, peut-être il est différent quand on est plus petit, quand on grandit. Le point de vue de l'enfant, c'est aussi important quand on est dans une famille touchée par la pauvreté. J'imagine que ça ne doit pas être très, très, très évident pour ces enfants.
Non, effectivement, mais enfin, moi, ce que je constate, c'est que les petits, petits, ils ne verbalisent pas beaucoup. En tout cas, nous, on ne le constate pas. Peut-être ils le verbalisent plus ailleurs que dans nos bureaux. Voilà, ils vont plus dire bah, « j'ai faim ». Voilà, ou ils vont être sur leurs besoins qui ne sont pas forcément pourvus. Sans dire et le mettre en lien avec l'argent. Hein, voilà, ils ne font pas forcément le lien, papa et maman, ils ont plus d'argent. Alors, il y en a qui le disent quand même, hein, en disant, maman a dit qu'il n'y avait plus trop d'argent, donc voilà, il n'y a plus de gâteau à la maison. Mais ils ne vont pas dire, oui, on est pauvre. Voilà. Mais voilà, on a des enfants, effectivement, qui vont avoir faim, qui demandent à manger, qui... Voilà. Plus grand, par contre, voilà, on a des enfants quand même, voilà, qui se rendent plus compte qu'ils font partie d'une famille qui est pas aisée. Après, il y a cette notion de honte aussi chez l'enfant, hein, qui va plutôt cacher que le verbaliser à tout bout de champ en disant, ben voilà, nous on est pauvres, hein, chez nous il y a rien à manger, donc on est plutôt en tant que professionnel, plus dans l'observation, hein, de parfois, d'ailleurs, parfois ils vont cacher, hein, ces enfants, ils vont beaucoup cacher, donc et c'est pas simple non plus d'aborder forcément de but en blanc comme ça les choses, donc le point de vue de l'enfant, il reste quand même difficile.
D'où l'intérêt de aussi qu'il y ait des espaces aussi autres, hein, c'est-à-dire qu'effectivement le cadre familial qui peut être difficile pour ces enfants, mais on est heureusement étayé par tout un tas d'espaces externes, les centres de loisirs, l'école, qui offrent quand même des choses qui permettent à l'enfant de se développer, de se construire. Après, c'est vrai que c'est, je pense que le comme dit Anne-Marie, hein, le virage adolescence peut être délicat pour ces enfants, avec la notion de honte, de colère aussi qu'ils peuvent ressentir, hein, vis-à-vis de leurs parents, de la société, qu'on les aide pas assez, qu'on fait rien pour eux, qu'on les a, c'est un peu les laisser pour compte, hein, voilà. Mais moi, je trouve que le défi, hein, dans l'accompagnement, c'est de pas tomber dans la victimisation non plus, c'est de pas dire à ces enfants, ben oui, voilà, c'est un peu déterminé, quoi. Tout est déjà écrit. Non, c'est tu as ta part active. Tu peux tout à fait, changer la trajectoire. Tu as des ressources. Il y a des choses de l'ordre du possible. Tout n'est pas possible, mais bon, ça c'est aussi la notion de cadre. Hein, tout n'est pas possible, mais des choses sont possibles. Et ça, c'est important de l'accompagner, l'ado là-dessus, je pense.
Effectivement, c'est la important. Notion de déterminisme.
Ouais, d'avoir une vigilance sur le regard qu'on porte sur ces enfants-là dans notre accompagnement. C'est vrai que ça peut, on peut malgré nous avoir un regard, des fois en se disant, avoir une sorte d'empathie un peu surdimensionnée, en se disant, oh là là, cet enfant. Et là, c'est important de pouvoir lui laisser de l'espace, peut-être pour exprimer des choses qu'il n'a pas la place d'exprimer à la maison, parce qu'il y a des choses qui passent avant, forcément. Et puis, et l'accompagner aussi vers qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme activité, qu'est-ce qui va pouvoir le nourrir, lui permettre de se découvrir lui-même et avoir une meilleure estime petit à petit de lui-même. Et l'accompagner aussi dans les relations. On voit des enfants dans des cours de récréation qui ont du mal à aller vers l'autre parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et ça va être aussi le rôle des adultes, que ce soit instit, animateur, toutes les personnes qui gravitent autour de ces enfants, de les accompagner là-dedans à comment on crée des relations, comment on arrive à prendre sa place dans un groupe. C'est une mission difficile, mais qui paraît primordiale pour les accompagner.
Et les enfants entre eux, est-ce qu'on voit aussi cette différence? Est-ce qu'ils... C'est remarqué? Est-ce qu'ils sont identifiés entre eux?
Clairement, hein, quand je parlais en démarrage sur la chronique, la difficulté que ont ces enfants à inviter les copains à la maison, rien que ça crée la différence. Il y a cette notion quand même. Après, on peut toujours faire ses anniversaires ou autres à l'extérieur de la maison. Il y a des possibilités, mais très rapidement, oui, il y a des choses qui se... Alors, comme dit Anne-Marie, je pense quand ils sont petits, il y a moins cette notion de se comparer les uns les autres. Mais effectivement, c'est plutôt au niveau du collège hein, que les choses peuvent s'aggraver.
Le cycle 3, on va dire, quand même. Enfin, on a parti sur le CM1, CM2, là, ça commence réellement à mieux intégrer l'autre aussi, entre guillemets. C'est moins égocentré, hein, petit à petit, l'enfant. Et où ils deviennent aussi de plus en plus durs. Mais par contre, même en CP, hein, on peut avoir... des enfants qui ont bien repéré certaines choses et qui se rendent pas forcément compte de la parole qu'ils portent. Hein,
les moqueries.
Les moqueries sur un short, sur des chaussures.
Il y a un trou sur le vêtement. Des choses un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est aussi le rôle des adultes autour de ces enfants à essayer d'échanger, de pouvoir partager, de faire que les enfants puissent prendre conscience et dire qu'effectivement, ce qui fonde notre société, c'est aussi la notion de différence et que on est tous différents. C'est comme un enfant qui présente un handicap. Hein, c'est un peu dans les mêmes échanges. C'est ça qui est fondamental. Et là, on a un vrai défi, nous les adultes.
Et pour conclure l'émission, peut-être pas parler de conseils, mais peut-être de dire qu'il y a des possibilités, des accompagnements. Donc, il faut peut-être rester à l'écoute. On pourrait peut-être dire ça, Marion?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, comme ça a été dit, que ce soit à l'ODEV et aux alentours. Mais c'est vrai que ça prend du temps parfois de s'informer, de savoir ce qui existe. Mais il y a beaucoup de diversité dans les accompagnements proposés autour de nous. C'est important de garder l'œil.
Et puis, je pense qu'il faut pas oublier que il faut sortir surtout du déterminisme hein, et leur offrir autant d'espace possible, mais surtout se souvenir que il y a des enfants qui s'en sortent et qui réussissent malgré tout ça leur vie, et que ce n'est pas parce qu'on grandit dans la pauvreté qu'on devienne forcément des adultes pauvres. Mmh.
Et moi, j'irais du côté des parents, hein, l'école des parents. Je comprends la culpabilité des familles, mais pour moi, quand on est parent et que on se rend compte de ces difficultés et qu'on va faire appel à un autre, c'est une preuve de compétence. Donc c'est compétent aussi de savoir aller vers l'autre.
Demander de l'aide est une force.
Exactement.
Voilà, ce sera la conclusion, le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à Maud Frichoux, psychologue de l'EPE, École des parents et des éducateurs de l'Hérault. Marion Verriès, accompagnante à la parentalité, formatrice de l'association Grandir Ensemble. Anne-Marie Stamps, coordonnatrice du PRE, programme de réussite éducative au CCS de l'ODEV. Merci à Cédric Rémy à la technique. Merci à tous.
Merci et à Anne Martinez pour la présentation.
Merci à tous. On se retrouve le mois prochain pour parler éducation, l'éducation ailleurs, dans d'autres pays. Je vous rappelle que Conseil de famille, c'est tous les derniers vendredis de chaque mois à 17h, rediffusé le samedi suivant à 13h. Merci de votre écoute. À bientôt.